Nous lisons ce soir le chapitre 5 de l'épître de Jacques. À vous maintenant riches, pleurez en poussant des cris à cause des misères qui vont venir sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille sera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme le feu. Vous avez amassé un trésor dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et duquel ils ont été frustrés par vous. Cris, et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur Sabaoth. Vous avez vécu dans les délices sur la terre et vous êtes livrés aux voluptés. Vous avez rassasié vos cœurs comme en un jour de sacrifice. Vous avez condamné, vous avez mis à mort le juste. Il ne vous résiste pas. Usez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, usez de patience. Affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Ne murmurez pas les uns contre les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge se tient devant la porte. Mes frères, prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. Vous avez ouï parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin du Seigneur. Savoir que le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. Mais avant toute chose, mes frères, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et votre non, non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il maltraité? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'assemblée et qu'il prie pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous, et il pria avec instance qu'il ne plût pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare de la vérité, et que quelqu'un le ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, un chaleureux bienvenue pour tous ceux qui sont ici, chers amis, pour la première fois. Et pour vous situer un petit peu dans notre sujet de cette semaine, c'est pour cela que nous venons de lire le 5e chapitre dans l'épître de Jacques. Nous avons déjà donc eu les 4 premiers. Le sujet de cette semaine était donc la maturité spirituelle. Il s'agit donc que c'est tout à fait entendu qu'après la conversion, après la nouvelle naissance, il se produit dans l'enfant de Dieu un accroissement spirituel. L'apôtre Paul aussi insiste beaucoup là-dessus. Et malheureusement, il a dû écrire aux Corinthiens dans le chapitre 3e, et je ne pouvais pas vous parler comme des hommes spirituels, mais comme des charnels, comme des bébés en Christ. C'est extrêmement triste s'il n'y a pas d'accroissement dans la vie d'un croyant. Donc, cet épître stimule à manifester les caractères d'une spiritualité. Et on ne peut pas faire ça si le Seigneur ne remplit pas le cœur. Ce ne sont pas nos caractères que nous devons manifester, mais il faut que le Seigneur Jésus lui-même manifeste à travers nos vies ses caractères. Donc, le chrétien, le croyant mûr, chapitre 1er, il a de la patience dans les épreuves. J'étais très touché par ce cantique que nous venons de chanter, qui parle des épreuves, des circonstances difficiles. Et on ne peut pas nier que la vie chrétienne n'est pas facile. Mais il faut aussi réaliser que le Seigneur n'a pas promis que la vie chrétienne sera facile. Dans le monde, il sera tribulation, mais ayez donc bon courage. Le Seigneur est vainqueur de ce monde. Et avec Jésus, si on reste tout près de lui, on peut donc avoir cette patience, cette paix profonde, de savoir qu'il est là, qui me tient par sa main, et que moi je peux me reposer sur sa poitrine, savoir que ses bras sont autour de moi toujours, et même. Répète cela souvent, cher ami, chaque jour. Il m'aime, mais je l'aime. Le Père lui-même vous aime, avait dit le Seigneur Jésus. Eh bien, dans ce chapitre premier, nous avons vu, donc, il y avait des tests et des tentations. Nous avons vu la différence. Le Seigneur teste, examine, scrute, éprouve la foi. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire que le Seigneur teste notre foi afin qu'elle grandisse, qu'il y ait un accroissement. Et pour cela, nous avons été encouragés, chapitre 1er, d'estimer un privilège que le Seigneur s'occupe de nous. Il y a aussi des tentations qui nous sont adressées par Satan pour nous faire tomber et pour nous décourager. Alors, il tente de ne pas mettre notre confiance dans le Seigneur Jésus. Quand il nous teste et on refuse, on murmure, on ne se soumet pas, le test peut être transformé en tentation et on tombe dans le péché. Chapitre 2e, un chrétien mûr met la parole de Dieu en pratique. Pour cela, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il faut donc mettre en pratique la parole de Dieu. Et nous avons vu dans ce chapitre 2e, il faut donc agir dans une connaissance des vérités que nous avons dans la parole de Dieu. Premièrement, la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Même s'il était homme parmi les hommes ici sur la terre, il était quand même Seigneur de la gloire. Et il est né pauvre, d'une maman pauvre, des parents pauvres. Il n'avait pas une maison pour lui-même. Il fallait donc qu'il emprunte une chambre pour le dernier soir de sa vie, cette autre chambre. Il n'avait même pas un tombeau pour lui-même. Il était pauvre. Donc le Seigneur est pour les pauvres. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour les riches, qui font leur confiance en lui aussi. On verra ça. Voilà donc, il y a dans ce chapitre 2e aussi que nous avons vu la vraie et la fausse foi. La vraie foi, on a cité une phrase qui est intéressante. C'est par la foi seule qu'on est justifié. Mais la foi qui justifie ne reste jamais seule ou sans fruit ou sans œuvre. Chapitre 3e, un chrétien mûr peut maîtriser sa langue. Alors là, nous sommes largement arrêtés, même avec l'aide du livre de Proverbes sur cet petit organe que nous avons dans notre bouche. Et combien de dégâts cet petit organe, cette langue peut diriger. Mais nous avons besoin de mort et un gouvernail. La langue a la puissance de détruire, comme le feu et comme des bêtes sauvages. La langue peut aussi donner plaisir si elle est dirigée ou maîtrisée par l'Esprit Saint. Ah, nous avons donc vu que pour que la langue parle pour le plaisir du Seigneur et pour le plaisir, pour l'édification de nos frères et sœurs, il faut que l'Esprit Saint maîtrise notre langue. Comme il avait déjà fait le jour de Pentecôte, j'ai remarqué aussi que le premier signe, c'est frappant que quand l'Esprit de Dieu est venu pour habiter dans les cœurs des croyants, il a maîtrisé cet organe, la langue? Est-ce que l'Esprit de Dieu maîtrise aussi notre langue? Et pour cela, donc, pour pouvoir utiliser sa langue utilement, pour le profit, il faut de sagesse. La sagesse qui vient d'en haut, du ciel. Et à la fin du chapitre 3e, nous avons décrit les différents aspects de cette sagesse. Ça commence avec douceur, traitable, paisible, cherchant la paix. Le chapitre 4e, comme nous avons considéré hier soir, un croyant mûr répand de la paix autour de lui, mais pas des troubles. C'est pour cela qu'on a ajouté un autre titre, « Arrêtez de faire la guerre entre vous ». Et Jacques a commencé, dans ce chapitre 4e, avec ces deux questions. D'où viennent les guerres des batailles? D'où? Et nous avons découvert que les guerres entre frères viennent de la chair, du péché qui habite en nous. Et là, nous avons lu donc aussi, dans le 7e chapitre d'Épître Romains, qu'il y a une bataille dans l'intérieur de nous. La loi du péché et aussi mon entendement. Mais il faut donc reconnaître son ennemi. On ne se bat pas soi-même. Le moi, le vieil homme, a été crucifié, enseveli. Nous sommes donc responsables de combattre contre la chair qui est en nous et le péché qui habite en nous. Et de cela, de cette source corrompue, vient tout ces guerres dont nous trouvons donc dans le chapitre 4e. La guerre avec Dieu, quand on ne se soumet pas à la volonté de Dieu, en effet, on tourne vers le monde, on agit indépendamment, et c'est l'inimité contre Dieu. Et j'espère que personne ici ce soir agit contre Dieu, mais reconnaisse la Seigneurie de Jésus-Christ dans sa vie et se soumet à la volonté du Seigneur Jésus. Donc, le moi a été crucifié. Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et c'est cela qui doit être manifesté dans notre vie. Et si Christ remplit notre vie, il n'y a pas de guerre, ni de bataille, ni de friction, ni des irritations, ni de médisances, ni de calomnies, de toutes sortes de choses que nous voyons maintenant, malheureusement, si souvent dans notre milieu. Alors, ce chapitre a fini de avertir pas seulement les hommes d'affaires, mais aussi nous tous, que dans toutes choses, chaque jour, il faut dire, si le Seigneur le veut, se soumettre à la volonté de Dieu. Et voilà donc notre chapitre 5e. Là, le titre est donc que le chrétien mûr prie dans les épreuves. Il prie dans les épreuves. Nous avons donc, premièrement, dans les 6 premiers versets, le rôle de l'argent. Dans les versets 7 à 12, si le perspectif est sombre, fixe le regard en haut. Et troisième section, les versets 13 à 20, priez donc dans les épreuves. Je pense que le verset clé dans ce chapitre peut bien être le verset 7 où nous lisons « Usez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. » Seulement ça. Si nous vivions chaque jour, par exemple en se levant le matin, se disant « peut-être aujourd'hui il va venir. » Vous ne pensez pas que cette pensée va influencer tous nos actes, tous nos pensées, tous nos relations les uns avec les autres si le Seigneur va venir aujourd'hui? Je veux pas qu'il me trouve en faisant quelque chose qui lui attriste. Non. Je veux pas qu'il me trouve faisant de la guerre avec mon frère, ma sœur. Non. Peut-être j'ai encore quelque chose à régler avant qu'il vienne. Eh bien, fais-le tout de suite, cher ami, avant que le temps passe. Le Seigneur va venir. Ah bien, vous dites, mais c'est déjà 2000 ans qu'on a dit qu'il va venir. Mais il faut réaliser 2000 ans, c'est 2 jours pour le Seigneur. C'est rien du tout. Il va venir. Et Dieu vit dans l'éternité, pas dans le temps. Donc, se lever le matin, disons, le Seigneur peut-être va venir aujourd'hui. Usez donc de patience dans toutes les circonstances. Les circonstances sont difficiles, sans doute. Chacune de nos vies, nous avons des problèmes, nous avons des problèmes peut-être avec nos enfants, avec nos maris, nos épouses, que sais-je, avec nos frères et sœurs, dans l'assemblée, dans le monde, il y a toutes sortes de difficultés, d'avoir la patience. Oui, mais nous sommes exhortés d'avoir donc la patience. Et en effet, dans cette section 7 à 12, nous trouvons 7 fois ce petit mot « patience répétée ». Vous dites, c'est parfait. En effet, 7 fois, nous sommes donc exhortés de patienter. Et on apprend la patience à travers des épreuves. Eh bien donc, il y a dans ce chapitre peut-être 2 pensées principales, 2 sujets. Les riches, la nécessité d'avoir la patience et prier. Constamment, instamment, toujours. Mais vous dites, mais je peux pas être à genoux toute la journée, frère. Non, je vais pas dire ça. Mais prier toujours, ça veut dire de maintenir cette relation avec le Seigneur Jésus. Même dans la cuisine, on peut le faire. Même dans la rue, en marchant. Même dans son bureau. Maintenir un soupir. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, garde-moi. Seigneur, souviens-toi de telle ou telle personne, etc. Des courtes prières. Maintenir la relation avec le Seigneur Jésus. La vie de prière, c'est tellement nécessaire. Et il y a donc des troubles, des épreuves, des ouvriers qui sont privés de leur salaire, verset 4. Des gens affligés, des maladies, verset 13 et 16. Des croyants qui se sont égarés, verset 19 et 20. Pour mentionner quelques problèmes déjà, quelques difficultés. Mais ces ouvriers doivent crier, le Seigneur entend. Et les malades doivent aussi prier. Et le Seigneur, un miséricordieux, il peut encore guérir. Et nous avons l'exemple d'Élie qui a patienté, qui a prié. Voilà donc quelques pensées qu'on trouve dans ce chapitre, mais maintenant élaborer un petit peu. Entrer dans les détails, expliquer. Voilà, dans cette section 1 à 6, nous avons dans le verset premier, des richesses qui périssent. Cher ami, il faut donc situer cet épître dans le contexte du Nouveau Testament. Vous savez que, nous savons tous déjà de l'école du dimanche, que dans le Nouveau Testament, nous avons 26 écrits, n'est-ce pas? Et puis, de ces 26, c'est l'épître de Jacques qui est le premier. Le premier écrit. Donc, au début de l'Église, tout de suite après Pentecôte, si vous voulez. Et quand nous réalisons que l'Église à Jérusalem, dans les peut-être les presque les 10 premières années, était entièrement juive. Et ils n'étaient pas encore même sortis du temple avec leur culte, dans les synagogues toujours. L'épître aux Hébreux n'était pas en réécrit, etc. Donc Jacques, nous l'avons remarqué au début de nos études, Jacques parle donc aux 12 tribus, les juifs chrétiens, mais qui n'ont pas encore tout abandonné des habitudes, des traditions juives. Et c'est très important de réaliser cela en expliquant aussi ce chapitre 5e. Donc les riches ici, ce ne sont pas des riches frères et sœurs en Christ qui réalisent leurs responsabilités, comme aussi d'ailleurs les pauvres. Chacun de nous, nous avons reçu des dons spirituels, mais aussi des dons matériels. Et alors, à chacun donc, la responsabilité d'user ses dons avec responsabilité, avec sagesse pour faire du bien. Ici, après quelques années, Jérusalem va être détruit. Et alors, c'est pour cela que ces riches qui se ramassent, Jacques dit, pleurez, en verset premier, en poussant des cris, à cause des misères qui vont venir sur vous. Vous allez perdre tout cela, bientôt. Mais c'est encore vrai pour aujourd'hui aussi. Qui est-ce qui peut prendre ses richesses avec lui? Tout cela va périr. Allons donc, verset premier, des richesses qui périssent. Verset 2 et 3, des richesses qui sont dormantes, qui ne sont pas utilisées comme il faut. Verset 4, des richesses corrompues. Verset 5, des richesses amassées pour soi-même. Et verset 6, des richesses qui sont de... Les maîtres de ces richesses sont des gens impitoyables, qui n'ont pas de compassion pour les autres. Les richesses, est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction? On pose la question. Eh bien, ma femme et moi, nous, je dois confesser que nous prions souvent ce verset en Proverbe. Proverbe 30, verset 8. Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge maintenant. Ne me donne pas ni pauvreté, ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire, de peur que je ne sois rassasié et que je ne renie et ne dise qui est l'Éternel, et de peur que je ne sois appauvri et que je ne dérobe et que je ne parjure le nom de mon Dieu. Vous voyez, je pense que c'est une prière qu'on peut prier tous. Eh bien, mais être riche, ce n'est pas mauvais. Il y avait beaucoup d'hommes riches, pieux dans la parole des pensions déjà à Abraham, ou à Job, ou à Joseph d'Arimathée, Barnabas même, un lévite qui a vendu tout au début de l'Église. Des hommes riches, mais des hommes pieux. Donc, des richesses, si c'est une bénédiction ou une malédiction, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend, pour ainsi dire, est-ce que nous possédons des richesses ou est-ce que les richesses nous possèdent? Il faut réfléchir à cela. Est-ce que nous possédons les richesses ou est-ce que les richesses nous possèdent? Vous souvenez tous de cet homme qui était un homme riche, encore jeune, qui est venu se prosterner devant le Seigneur Jésus. Maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Pauvre. Il pensait qu'il fallait hériter, mais c'est une contradiction des termes d'être, d'hériter la vie éternelle. Faire quelque chose pour hériter, voilà. C'est ce que je veux dire. Faire quelque chose pour un héritage, mais c'est un non-sens. Si j'avais un oncle en Amérique qui était un millionnaire, vient de mourir, et il me laisse un million. Alors, j'ai rien fait pour ça, mais je suis héritier. Eh bien, on ne fait rien pour hériter. Alors, il n'a pas compris. Mais le Seigneur, quand il a écouté ce jeune homme qui lui parlait avec tout sérieux, il l'aimait. Alors le Seigneur met le doigt sur exactement le Dieu, l'idole, dans le cœur de cet homme. Va, vends tout ce que tu as, suis-moi. Et c'était dur. Et il a choisi les richesses pour le présent, pour perdre les richesses éternelles. C'est grave ça. Quelles sont nos priorités, chers amis? Pour qui est-ce que nous vivons? On pourrait donc citer un verset à Matthieu 6, je lis, et verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, et où les voleurs percent des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent rien. Et où les voleurs ne percent ni des robes, car là, où est votre trésor? Priorité. Là sera aussi votre cœur. Et encore, à la fin de ce chapitre, verset 33. Mais, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que nous amassons? Eh bien, des richesses dans les jours de Jacques, c'est bien apparent dans ce chapitre aussi. Consiste pas dans les immeubles d'aujourd'hui, des voitures, que sais-je, des maisons, mais dans les habits, des vêtements d'or, d'argent. Mais par exemple aussi dans l'Ancien Testament, Achan a été tenté par quoi en Jéricho? Par un vêtement et de l'or et de l'argent. Et puis, Naaman, quand il a été guéri, qu'est-ce qu'il voulait donner comme récompense au prophète? Des vêtements. Donc, c'est pour cela que nous avons ce verbe ici employé. Vos vêtements sont rongés par le ver. Aussi, votre or et argent sont rouillés. Alors, ce verbe rouillé, c'est un symbole de non-usage. C'est pour cela que j'ai intitulé ce verset 2 et 3. Les richesses dormantes. Ils sont là, mais ils ne sont pas utilisés pour le but nécessaire. Ils rouillent. Ils ne sont pas usés. Mais cela s'applique aussi. On peut donc tirer de ces 6 premiers versets adressés aux riches incrédules qui n'ont pas de pitié ni de miséricorde. On peut donc tirer un enseignement moral pour nous. Qu'est-ce que nous apprenons de cela? Est-ce que nous avons, par exemple, des richesses spirituelles qui ne sont pas usées pour le Seigneur, pour nos frères et sœurs? Soit notre argent, soit nos dons spirituels. Nous sommes tous des membres dans le corps de Christ. Nous avons donc, pour pouvoir fonctionner, nous avons reçu des capacités spirituelles. Mais est-ce que nous fonctionnons comme il faut dans le corps de Christ? Si, par exemple, moi je n'utilise pas ce bras pour 3 mois, à la fin ce sera atrophié. Et c'est comme je n'ai pas un bras. Et si on a reçu un don du Seigneur, ou des dons, ou des capacités spirituelles qu'on n'utilise pas, finalement c'est comme on n'a rien. Mais le Seigneur demande que nous rendions compte devant le tribunal de Christ, et c'est très sérieux. Donc, peut-être pas vêtements, peut-être pas or ou argent, mais peut-être des dons spirituels qui ne sont pas utilisés. Est-ce que nous négligeons aussi la lecture de la Bible, de la parole de Dieu, l'étude de la parole, ou peut-être une vie gaspillée, une vie qui est vécue pour soi-même et pas pour le Seigneur Jésus? Est-ce que tous les enfants de Dieu ici ce soir, dans ces deux chambres, est-ce que nous pouvons dire, oui, par la grâce de Dieu, je veux vivre pour le Seigneur Jésus? Eh bien, donc rouille, c'est aussi un symbole de la destruction. Le désir d'être riche ronge comme le cancer. Nous trouvons ça aussi en 1 Timothée 6, verset 10, etc. Car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent, ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses. Or, la piété, avec le contentement, est un grand gain. Il faut peut-être écrire cela en larges lettres et mettre sur le mur du salon. Je répète, or, la piété, avec le contentement, est un grand gain. Voilà cet homme, l'apôtre Paul, par exemple. Il s'exprime ainsi en Philippiens 4. Philippiens 4, verset 11. Non que je parle ayant égard à des privations, car moi, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé. Je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses. Et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Voilà le secret. Voilà le secret qu'on peut tirer de notre méditation de ces 6 premiers versets. Je puis toutes choses dans la pauvreté, dans la richesse. Mais Seigneur, garde-moi de ces deux choses. Ainsi, il permet que nous passions par des circonstances difficiles, on peut faire confiance. Donc, verset 4, des richesses corrompues. Dans le cas de ces gens riches, ils avaient donc retenu les salaires de leurs ouvriers. Et ça, c'est très grave dans les yeux du Seigneur. Ils n'avaient pas donc de compassion. Ils ne pensaient qu'à eux-mêmes. Et hier, nous avons considéré combien nous sommes donc nés par nature, égoïstes. Dans la nature, dans notre nature, nous ne pensons qu'à nous-mêmes, le moi. Voilà donc les gens incrédules qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais il y a aussi le danger qu'un croyant charnel agit comme un incrédule. Parce que il faut le reconnaître que l'argent joue un rôle, et aussi dans l'assemblée parfois, aussi. S'il y a un frère riche, on lui donne la position là-devant. Excusez-moi, mais je suis maintenant 65 ans, j'ai vu des choses. Ou peut-être un frère qui a une forte connaissance, qui peut me citer des versets de Genèse à Apocalypse, on dit, on est émerveillé de toute cette connaissance. Et puis, comme j'ai remarqué l'autre soir, on adore presque, on est émerveillé par un intellectualisme parmi nous. Le plus qu'un homme sait, le plus qu'il est merveilleux. Mais est-ce que ça, c'est spirituel? Est-ce que c'est spirituel d'avoir en mémoire photographique? Mais c'est merveilleux d'avoir en mémoire photographique. On peut retenir beaucoup de choses. Mais ça, ça ne veut pas dire spiritualité. Spiritualité, donc, s'il y a une forte connaissance de la parole de Dieu, avec piété, avec humilité, c'est un grand don. Mais un frère qui a beaucoup de connaissances et qui a donc les mêmes caractères du Seigneur Jésus-Christ, douceur, compassion, humilité, cela est attrayant. Et donc, il n'opprime pas. Un frère avec beaucoup de connaissances, mais qui est en même temps aussi humble, en même temps aussi plein d'amour, ce n'est pas un frère qui opprime ses frères et sœurs dans l'assemblée. Ce n'est pas un frère qui impose son opinion, qui impose son interprétation spéciale pour lui, et qui ne peut pas supporter qu'il y ait un autre frère qui a une autre pensée. Ces riches opprimaient les plus pauvres, les plus faibles. On peut encore opprimer les plus faibles, les plus jeunes. Il faut donc réaliser, nous aussi, que peut-être ils ne sont pas riches, ou moins pauvres, que nous sommes simplement administrateurs de ce que nous avons reçu. Soit des richesses de ce monde, et nous sommes simplement administrateurs et pas possesseurs. Un compte de banque, ce n'est pas à vous, c'est au Seigneur Jésus. Eh bien, il faut l'utiliser pour lui. Et si nous n'avons pas beaucoup d'argent, tout ce que nous avons, c'est aussi au Seigneur Jésus. Chacun de nous, nous sommes sur le même niveau devant Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Oui. Mais Proverbe dit, Proverbe 23, verset 4, ne te fatigue pas pour acquérir des richesses. Finis-en avec ta prudence. Cherchons donc le royaume de Dieu. Et faisons du bien avec tout ce que le Seigneur nous a donné pour être en bénédiction. Les cris sont parvenus aux oreilles du Seigneur, dit Jacques. Et le Seigneur écoute toujours. Il écoute aussi dans nos milieux s'il y a des cœurs qui se sentent écrasés et ont été opprimés, qui sont, par exemple, frustrés. C'est bien que même Jacques dit dans le verset 4, « Des ouvriers qui ont maçonné vos champs, duquel ils ont été frustrés par vous. » Peut-être c'est pour cela aussi dans un autre sens, mais une autre application, mais quand même néanmoins aussi vrai. Par exemple, des papas sont exhortés par l'apôtre Paul en Colossiens chapitre 3 et verset 21, « Père, n'irritez pas vos enfants, afin qu'ils ne soient pas découragés. » C'est dans une autre application, mais c'est aussi vrai. Ne pas opprimer, ne pas être toujours négatif, ne pas toujours critiquer, détruire les autres. Vous voyez, on a parlé avec un jeune frère hier soir aussi, on parle des péchés moraux, des fausses doctrines. Et on pense que voilà, c'est la limite. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres péchés que des morales? Par exemple, la fornication, adultère, ou de nier l'inspiration de la parole de Dieu ou la déité de Christ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres péchés? Est-ce qu'il n'y a pas de l'orgueil? Est-ce qu'il n'y a pas un esprit de supériorité? Manque de douceur, manque d'amour, manque de compréhension, manque de patience, et toute une liste. Ce ne sont pas des péchés qui sont aussi graves. Est-ce que nous soulignons seulement des péchés moraux, comme l'adultère et fornication, ou des péchés de doctrine, fausse doctrine, hérésie, et on laisse tous les autres péchés? Il ne faut pas les mentionner. C'est pour cela qu'on introduit aussi le fait qu'on peut opprimer les uns les autres, que le Seigneur nous garde. Le verset 5, comme nous avons vu, c'est amasser des richesses pour soi-même. Et Jacques dit, en faisant cela, vous vous préparez pour le jugement. Mais si nous amassions un trésor dans le ciel par les bonnes œuvres, par semer la bonté, la bénédiction autour de nous. Nous construisons un trésor. Nous nous préparons aussi, mais pas pour le jugement. Pour le tribunal de Christ, oui, mais c'est pas le jugement. Et nous aurons une récompense du Seigneur. Donc, ayons aussi, comme le Seigneur Jésus lui-même, un cœur miséricordieux. Et ne pas vivre égoïstement. Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de leur nourriture. Ça se trouve dans le chapitre 2, verset 15, verset 16 de notre épître. Et manquent de leur nourriture de tous les jours, et que quelqu'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le cœur. Quel profit y a-t-il ? » Et j'ajoute encore quelques versets en 1 Jean 3, verset 16. Par ceci, nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous et nous devons laisser nos vies pour les frères. Mais celui qui a des biens de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Maintenant, les fameux versets qui suivent. Enfants, n'aimons pas de paroles ni de langue, mais en action et en vérité. Et par ceci, nous saurons que nous sommes de la vérité. Et nous assurerons nos cœurs devant lui que, si notre cœur nous condamne, mais en rapport avec quoi? En rapport avec quoi nos cœurs peuvent nous condamner? En rapport avec ces versets précédents, que nous avons manqué de manifester intérêt, souci pour nos frères et sœurs dans les besoins, soit spirituels, soit matériels. Si moi je me réalise que j'ai manqué, on ne peut pas s'excuser disant bien Dieu est plus grand que mon cœur. C'est lui qui s'occupe. Le verset poursuit. Dieu est plus grand que notre cœur et il sait toutes choses. Il sait quoi? Il sait là où moi j'ai manqué à manifester l'amour et le souci pour mes frères et sœurs. Et ça, c'est très grave. Ce n'est pas une excuse, ce verset. C'est presque un appel à notre cœur. Eh bien, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas dans ce sujet, nous avons de l'assurance envers Dieu et quoi que nous demandions, nous le recevrons de lui. Est-ce que nous sommes donc en rapport avec, est-ce que notre cœur est ouvert pour Dieu? Est-ce que nous retenir quelque chose de lui? Voilà donc, nous avons notre verset 7 jusqu'à verset 12. Si la perspective est sombre, c'est très sombre pour ces pauvres cultivateurs, ces laboureurs, parce qu'ils n'avaient pas reçu leur salaire. Si la perspective est sombre, et pour nous peut-être dans un autre sens, nos jours peuvent être sombres, difficiles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Fixe les regards. Oh, le Seigneur le sait. Et alors, cette fois, répétez le mot patience. Nous attendons la venue du Seigneur Jésus, un jour lumineux. Lumineux. Les jours sont sombres, mais bientôt le Seigneur va venir. Usez donc de la patience, bienheureux. C'est donc la venue du Seigneur est intitulée le bienheureux espérance de l'apparition de la gloire. Le Seigneur va venir. Entre-temps, et voilà, nous y sommes sur la terre, comme des cultivateurs, comme des gens qui doivent agir. Nous avons une activité, chacun de nous. Et laboureur, dit Jacques en verset 7, attend le fruit précieux de la terre. Voilà, le cultivateur, et moi, j'ai pas d'expérience, mais il y en a ici qui ont cette expérience. Il y a des saisons pour le cultivateur. Mais dans la vie spirituelle, peut-être il y a aussi des saisons, parfois, où il semble que le soleil ne brille pas et qu'il pleut. Et il y a des nuages qui nous cachent le visage du Seigneur Jésus. Et peut-être, parfois, il y a de l'hiver aussi dans nos vies. Pas beaucoup de fruits. Nos cœurs ne sont pas enflammés pour le Seigneur Jésus. Eh bien, le Seigneur peut produire en nous un réveil spirituel. Je ne crois pas qu'il y aura encore un réveil en masse dans nos assemblées ou dans la chrétienté. Mais je suis convaincu que chacun de nous, chacune de nous, nous pouvons avoir un réveil individuel, spirituel. Si nous sentons le besoin pour cela, et que nos cœurs soient réchauffés pour le Seigneur Jésus, et comptez sur lui, oui, le champ dans lequel nous œuvrons, il y a des dépenses. Le Seigneur a aussi beaucoup supporté des choses contraires à lui quand il a œuvré pendant ses 3 ans et demi sur cette terre. Il a été opposé, il a été calomnié, critiqué. Il y a des expériences pour chacun de nous. Mais il faut aussi réaliser que Dieu est en train d'agir dans nos vies pour produire des fruits dans toutes ces épreuves, dans toutes ces circonstances difficiles. Dieu, notre Père, est en train, par son Esprit, de nous rendre conformes à l'image de son Fils. Toutes choses travaillent pour le bien, ensemble pour le bien, pour ceux qui sont appelés. Parce qu'il va avoir aussi le travail de son âme en toi et en moi. Est-ce qu'il va voir son visage reflété en toi et en moi? Est-ce que nous nous laissons vraiment opérer en nous, en dépit de toutes les circonstances, ou même dans les difficultés de la vie? Il y a donc là, pour nous, des leçons à apprendre. Le Seigneur a annoncé sa décision. Il va venir. Le juge se tient à la porte, dit Jacques. Et il y a encore dans le verset 9 et 10 un avertissement, maintenant adressé aux croyants. Et il y en a quatre exhortations. Et on peut comprendre ces situations parce que quand on a des troubles, quand on a des contrariétés dans la vie, c'est tellement facile à murmurer, à ne pas être content. Alors, c'est pour cela que Jacques dit, ne murmurez pas l'un contre l'autre, même si les temps sont difficiles. Et s'il y a des difficultés aussi dans l'Assemblée, des conflits, comme nous avons vu hier soir, jugez cela et vivre en paix, cherchez la paix les uns avec les autres. Ne jurez pas, ne parlez pas trop, ne donne pas des promesses. Dans ton excitation, dans agitation peut-être, et que tu regrettes plus tard, ne jurez pas. On parle beaucoup aujourd'hui aussi. On multiplie beaucoup de mots. Mais, dit Jacques, prenez donc pour exemple les prophètes, pour avoir un exemple des gens qui ont été maltraités, qui ont été fidèles pour le Seigneur, mais qui ont été souffert. Et ça existe encore aujourd'hui que on veut vraiment être fidèle dans son service pour le Seigneur Jésus. Et on peut aussi être maltraité. Qu'est-ce qu'il faut faire dans une telle situation? Se venger? Se défendre? Oui, c'est tout à fait naturel qu'on commence à se défendre. Mais c'est beaucoup mieux que de laisser le Seigneur se défendre. De se reposer et de se vivre dans cette dépendance sur lui. Et le temps vient qui prend notre défense. Voilà donc, prenez un exemple des prophètes. Il n'y a pas de victoire sans des conflits et pas des sommets sans des vallées. Il faut passer par des vallées pour arriver au sommet. Il y a des conflits nécessaires pour pouvoir remporter les victoires par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Étant dans la volonté du Seigneur ne veut pas dire que nous sommes épargnés des difficultés. Souvent, à cause de notre fidélité, nous trouvons de l'opposition. Et notre jeunesse, peut-être à l'école, au collège, à l'université, dans un monde qui est incrédule, qui ne croit pas dans l'existence de Dieu, vous pouvez être maltraité, on peut se moquer de vous. Pour vous aussi, mes chers jeunes amis, prenez courage. Le Seigneur connaît et comprend ta situation. Et fais confiance en lui et accepte ses souffrances parce que tu as une couronne pour ta fidélité. Mais la volonté de Dieu ne te conduit jamais là où la grâce de Dieu ne peut pas te garder. Mais il ne faut pas donc tenter le Seigneur et aller dans les endroits que tu sais très bien qui ne sont pas pour un chrétien. Le Seigneur a aussi révélé son but dans la vie de notre homme, pas un prophète, peut-être aussi un prophète, Job. Et Job a mentionné dans le verset 11, « Vous avez appris quelle a été la patience de Job et vous avez vu la fin du Seigneur. » Quelle était donc la fin du Seigneur en rapport avec Job? La fin du Seigneur se trouve à la fin de ce livre de Job. Il a connu des détresses dans le chapitre 1, 2 et 3. Et il s'est défendu dans les chapitres 4 à 31. Mais il a vu aussi sa délivrance dans le chapitre 38 à 42. Et là, il a dit, eh bien, vous connaissez ce verset aussi bien. Il a eu le dégoût de lui-même. Il se trouvait dans la poussière devant l'Éternel. Il s'est connu lui-même. Et c'est très sain de se connaître soi-même. Mais il a aussi connu la bonté et la miséricorde du Seigneur Jésus. Ces deux choses doivent aller ensemble. De plus que je connais le Seigneur Jésus, je me connais aussi et je suis émerveillé de tout ce qu'il a fait pour moi, pour toi, qui m'aime en dépit de toutes mes faiblesses. Oui, quel bonheur. Nous sommes une nouvelle création en Christ, parfaitement acceptée, rendue agréable, parfaitement aimée. Voilà le but de Dieu, la fin du Seigneur pour Job, mais aussi pour nous, rendu conforme à l'image de son Fils. Et ne jamais oublier, Dieu maîtrise toutes nos circonstances. Et pour finir, les versets 13 à 20, prier dans les épreuves. Dans ces versets qui suivent, nous avons quatre situations dans lesquelles Dieu exauce les prières. Peut-être dire, peut exaucer, veut exaucer les prières. Quatre situations. La première situation, c'est le verset 13. Quelqu'un d'entre vous est-il maltraité? Bien, nous venons de parler de cela. Pensons donc, par exemple, encore une fois, à Acte 16, où Paul et Silas étaient fidèles, ont annoncé l'évangile et ils se trouvent dans la prison, souffrant, maltraité. Et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se plaignent? Non, ils chantent. Ils chantent. Alors, tous les autres prisonniers ont entendu. Et le Seigneur est entré dans leurs circonstances, a produit un tremblement de terre. Le geôlier est venu, voulait se suicider. Il a crié pour la crier, ne te tue pas, viens. C'est le diable qui dit, mais c'est la fin pour toi. Alors, commettre le suicide. Voilà, ce pauvre homme, il est tombé devant Paul et Silas. Qu'est-ce qu'il faut faire afin qu'il soit sauvé? Crois au Seigneur Jésus. Et voilà. À cause de leur foi, n'est-ce pas, maltraités, mais ils ont été victorieux. Ils ont pu donc transformer leurs épreuves en victoire par la grâce de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes maltraités? Priez. Quelqu'un est joyeux et que le Seigneur augmente notre joie? Eh bien, il faut chanter. Chanter à la maison. On a peut-être perdu un peu cette habitude que de chanter avec l'orgue. C'est un harmonium dans nos jours, n'est-ce pas? Maintenant, c'est une autre chose. Mais chanter, néanmoins chanter. Chanter ensemble, beaucoup chanter. Surtout la jeunesse. Chanter ensemble, dans les maisons, dans les assemblées, dans les rencontres. Nous sommes un peuple joyeux. Nous avons le Seigneur qui habite en nous. Oui, on a de raisons pour chanter. Mais maintenant, on a les versets 14 et 15, il y a un cas, et dans le verset 16, un autre cas. Et il faut pas mélanger. Alors, je reviens à ce que je viens de dire. Il faut situer cet épître encore dans un cadre juif, n'est-ce pas, au début de l'Église. Alors, si quelqu'un d'entre vous, c'est donc pas un incrédule ici, c'est quelqu'un qui est chrétien, un juif chrétien. S'il est malade, qu'il appelle les anciens de l'Assemblée et qu'il prie pour lui, en loignant de lui, au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous voyez, c'est une personne. Il s'agit ici de quelqu'un, une personne. Dans le verset 16, c'est une autre chose. Nous allons voir. Parce que là, il n'est pas dit qu'il faut appeler les anciens, et il dit vous, le pluriel. Verset 16, confessez donc vos fautes l'une à l'autre
etc. Et vous soyez guéris. C'est un autre cas. Il faut distinguer ces trois versets. Versets 14 et 15 et verset 16. Pour revenir au verset 14, qu'est-ce que nous voyons donc dans ces versets? Alors voilà cette question. Est-ce que donc la maladie est le résultat d'un péché? On a toujours posé cette question. Même dans le jour du Seigneur Jésus, vous vous souvenez encore, c'est le chapitre 9e de Jean. Rabbi, cet homme aveugle, et comme il passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant, Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né, ainsi né aveugle? Jésus répondit, ni celui-ci n'a péché, ni ses parents. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc ici, quelqu'un est aveugle, mais c'était pas à cause d'un péché particulier. Il y a des cas où il y a une maladie à cause du péché. Donc Marc, l'évangile de Marc, chapitre 2e, c'était un paralytique. Et dans le verset 5, le Seigneur Jésus, quand il avait guéri, et il dit, verset 5, « Et Jésus, voyant leur foi, ses quatre amis, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ça laisse peut-être la supposition, est-ce qu'il était malade à cause d'un péché? Et aussi plus tard, en Jean 6, le Seigneur a guéri un homme après tant d'années de maladie, et plus tard, il le trouve dans le temple et dit, bien, tu es guéri, maintenant, ne pêche plus, de peur qu'il y a pire qui t'arrive. Il y a donc des maladies qui sont le résultat d'un péché caché, qui n'est pas confessé. Et ici, il nous semble, dans le verset 14 et 15, c'est un péché qui est donc, cette maladie est donc le résultat d'un péché qui a été caché. Et maintenant, sur lit de maladie, cet homme s'est rendu compte qu'il a péché contre le Seigneur, qu'il a confessé, et puis il a appelé les anciens. Dans ces temps-là, il était les anciens nommés par des apôtres qui étaient là, ou les délégués des apôtres. Et voilà, c'est tout à fait normal qu'il appelait les anciens. Mais maintenant, regardons verset 15 qui dit « La prière de la foi sauvera ». Voilà, il s'agit ici donc des anciens qui ont un discernement spirituel que le Seigneur les a révélés, que lui, cet exercice, cette discipline, ce châtiment pour cette personne a été achevé, a eu son résultat. L'homme s'est repenti et maintenant le Seigneur va le guérir. Et les anciens prient cette prière de la foi et Dieu guérit. Sans doute, mes chers amis. Il dit, et la prière de la foi sauvera la maladie et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Mais maintenant, peut-être ça, c'est plus, verset 16, c'est plus notre cas, peut-être, d'aujourd'hui. Voilà, j'ai réalisé que j'ai fait un péché. Si c'est contre Dieu, je le confesse contre Dieu, ou pour Dieu. Si j'ai péché contre un frère ou une sœur, je dois aller lui confesser. Et si je réalise que je n'ai pas forcément péché contre un frère ou une sœur, mais cela me pèse sur ma conscience, et peut-être il y a une maladie à cause de cela, discipline. Peut-être, eh bien, je peux aller chez un frère dans lequel j'ai confiance. J'ouvre mon cœur. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre. Mes chers amis, il me semble qu'on n'a pas compris cela aujourd'hui. Il y a des cas dans nos rassemblements où il y a eu une histoire, un malentendu, et il ne s'est jamais réglé. On n'a jamais confessé, j'ai eu tort, pardonne. Et après 10 ans, on est dans l'assemblée, on rompt tranquillement encore le pain à la table du Seigneur. Et en sortant de l'assemblée, on ne se salue pas. Vous pensez que ça c'est normal? Vous pensez que l'Esprit n'est pas attristé par de telles situations? Comment est-ce qu'on peut encore prétendre d'avoir le Seigneur au milieu de nous sans empêchement? S'il est encore au milieu de nous, c'est sa miséricorde que nous ne sommes pas consumés. Mais je pense que c'est absolument nécessaire pour chacune de nous d'examiner son cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie? Est-ce que moi j'ai eu tort? Est-ce que quelqu'un a été blessé par ma conduite, par mes paroles? Il faut le régler. Chers amis, il faut le régler avant que le jour du Seigneur Jésus vienne, après-demain. Et sinon, vous risquez d'être discipliné par le Seigneur Jésus. C'est pas pour rien que nous lisons en 1 Corinthiens 11, verset 30. Et pour cela, beaucoup d'entre vous sont malades et même endormis, morts. Mais il faut pas maintenant, mes chers amis, regarder autour de soi et bien, oui, elle a péché, c'est pour cela qu'elle est malade. Oui, alors, quelqu'un décédé, c'est pas. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. On n'a pas un juge. Il y a un seul juge, c'est Dieu. Il faut simplement se juger soi-même dans la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que moi, je suis donc devant le Seigneur honnête et devant mes frères et sœurs? Et si oui, et j'ai confessé, alors priez l'un pour l'autre en sorte que vous soyez guéris. Nous savons tous bien que dans les versets 14 et 15, que l'huile ne guérit pas. C'est la prière de la foi. Mais et si tu es encore dans le jour des Juifs, pour finir, pour encore notre encouragement, nous trouvons dans ces versets l'exemple d'Élie. Élie était fidèle. Il voyait le peuple dans un triste état spirituel. Et si nous sommes honnêtes devant le Seigneur, et nous regardons autour de nous, nous voyons aussi que nous sommes très bas spirituels. Est-ce que nous allons agir comme Élie? Et si on agit comme Élie, il a souffert. Il a prié, et par sa prière, il y a eu une famine. Mais lui a aussi souffert, mais le Seigneur a pris soin de lui. Mais Élie a voulu s'identifier avec son peuple. Et nous aussi, nous devons nous identifier les uns avec les autres. On ne peut pas dire c'est à cause de celui ou de cela, ou de ceux que nous nous trouvons dans la misère. Nous sommes tous impliqués. Nous sommes tous coupables. Si la situation dans mon assemblée n'est pas saine, moi je suis aussi impliqué. Je ne peux pas dire moi je suis en dehors de toute cette situation. Mais comme Élie, supplions le Seigneur. Et Élie est un homme comme nous. Et des mêmes passions comme nous, dit Jacques. Mais il a prié avec instance. Prier dans sa prière, sérieusement. Et nous devons prier, crier, jeûner, s'humilier devant le Seigneur, aujourd'hui, dans notre état. Et le Seigneur peut encore exaucer et produire du fruit pour la gloire de son nom. Ah, s'il y a donc parmi nous ceux qui se sont égarés de la parole de Dieu, versets 19 et 20, si quelqu'un est tombé peut-être dans une erreur, et c'est bien l'apôtre Paul qui nous exhorte en Galates, le chapitre 6e, frères, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Jamais prendre une position de supériorité, ça m'arrive pas, une telle ou telle chose. S'identifier avec ce frère et cette sœur et de se sentir à son côté avec douceur. Cherchez donc à le ramener. Et ainsi, on peut avoir un ministère de couvrir. Il y a ce ministère aussi dans l'Ancien Testament. On peut couvrir une multitude de péchés. Ça ne veut pas dire qu'il faut excuser ou ne pas juger le péché, mais couvrir une multitude de péchés, ça veut dire non. On ne parle pas publiquement de péché d'un tel ou tel frère, d'une telle ou telle sœur. On parle beaucoup l'un de l'autre, de ses faiblesses, de ses fautes, etc., en public. Et cela gâte toutes choses. Ça divise les frères et sœurs entre nous. Mais dans la prière, chercher à restaurer, à ramener quelqu'un qui s'est égaré dans son chemin, et tu sauveras une âme. Si c'est un incrédule, tu sauveras un âme. Si c'est un frère en Christ, tu l'épargnes beaucoup de misère. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique la parole.